Ok, messieurs, merci Hachem. Dans moins de deux semaines, la fête de Shavuot, Matan Torah. Et c'est le jour aussi du décès de David Ameler, le roi David. C'est pour ça qu'il est bien de lire Tehilim. Bon, d'habitude, on finit au moins une fois le livre de Tehilim durant la fête de Shavuot. Tehilim, donc, écrit les psaumes du roi David. Et je me suis dit un peu qu'en tant que préparation pour cette fête, on va parler un peu de notre maître, David. Eved Hashem, serviteur de Dieu. Le peuple juif n'avait pas de droit. Ils vivaient en Israël, sans roi, ils avaient un prophète, enterré pas trop loin d'ici, Shmuel HaNavi, vous voyez, là-haut sur la colline. Et Shmuel HaNavi allait, durant toute sa vie, à Dodan, il passait de ville en ville, de village en village, pour prodiguer la loi et juger. Chaque fois qu'il y a un problème, qui quoi, qui a raison, comment faire. Béni Israël demande d'avoir un roi. Shmuel déconseille, mais Dieu lui dit, ok, ils veulent un roi, ils auront un roi. Et Shmuel va oindre, à l'époque, de tout temps, on devient roi d'Israël par onction. Il y a une huile d'onction dont la recette est marquée dans la Torah. Et un prophète vient et met de cette huile, oint de cette huile, sur la tête de l'homme qui a été désigné par Dieu, c'est le prophète, donc Dieu dit au prophète qui sera l'homme, et cet homme-là devient, Mashiach Hashem devient le roi d'Israël, d'ordre divin. Lorsque Shmuel sacre oint le roi Shaoul, c'était en incognito, personne n'était au courant, c'est les deux seuls. Il lui dit d'ailleurs ce qui va se passer dans la suite des opérations. Demain, tu iras comme si il t'arrivera ça, après demain comme ça, etc. Et il lui dit, lorsque tu seras roi, tu auras une guerre contre les Philistins, tu m'attendras que je vienne, et quand je serai venu, moi je ferai l'holocauste, j'amènerai un sacrifice, et vous partirez en guerre. Bon. Une fois que Shaoul est un roi, passe un certain temps, et qu'il y a une guerre qui éclate, et Shaoul vient, et il gagne la guerre, et tout le monde reconnaît la royauté, le caractère royal de Shaoul. Au début, pas tout le monde était d'accord, parce qu'il provenait d'une petite tribu, la plus petite Binyamin, la plus petite famille, dans la plus petite tribu du peuple d'Israël. Là, la suprématie et la royauté de Shaoul ne fait plus aucun doute. Et tout à coup, il y a le fils de Shaoul qui va et qui tue un des seigneurs philistins qui était dans la région. Les philistins avaient main mise sur le peuple d'Israël. Et les philistins, sachant que les juifs donc se sont révoltés contre eux, amènent une armée énorme. Shaoul appelle tout Israël au combat. Une partie d'Israël fuit, vont en Jordanie. Une autre partie fuit, vont dans les grottes. Ils n'étaient pas habitués à ce qu'il y ait un roi, on part en guerre. Ils supportaient très l'occupation philistine sans cesse, les spoliations et l'occupation philistine. Néanmoins, une partie reste avec Shaoul et ils attendent. Un jour, deux jours, trois jours. Nous, on part en guerre, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Quatre jours, cinq jours, six jours, sept jours, les gens commencent à se défiler, ils partent. Et c'est une mauviette ce roi, c'est pas un roi. On part en guerre, qu'est-ce qu'on fait là? À quoi on joue? Shaoul attend que Shmuel vienne, Shmuel ne vient pas. Septième jour arrive, Shaoul attend, on voit que rien ne se passe, ok, amène-moi l'Holocauste, c'est moi qui le fais. Il amène l'Holocauste, qui apparaît? Shmuel. Ah Shmuel, Baruch Haba, bienvenue. Quoi Baruch Haba, bienvenue? Je t'avais dit de m'attendre, n'est-ce pas? Parce que tu as désobéi à l'ordre de Dieu, alors Dieu donnera la royauté à quelqu'un qui ira d'après le désir de Dieu. Là, Shaoul apprend la mauvaise nouvelle que sa royauté qui était censée être éternelle sera passée à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, ce roi, sera le roi David. Un peu plus tard dans l'histoire, Dieu se dévoile à Shmuel, lui dit, va à Bethléem. Là, il y a une famille, Ishaï, un des grands de la génération, et tu vas sacrer un de ses fils. Shmuel vient à Bethléem, on le reçoit, le prophète est arrivé à Bethléem. D'abord, il panique, parce que si le prophète vient spécialement, c'est qu'il y a eu un problème, quelque chose, il dit, non, pas de problème, tout va très bien, je suis venu faire un grand sacrifice, allez-moi tous les notables. Et Ishaï vient, Ishaï est connu comme étant un grand tzaddik, et il est honoré à la table vraiment d'honneur avec Shmuel. Et Shmuel dit à Ishaï, amène-moi tes enfants, je veux voir tes enfants. Ishaï amène son premier fils. Il s'appelait Eliav. Eliav rentre, il est beau, grand. Shmuel se dit, c'est lui. Voici Meshiach Hashem, voici le oint de Dieu. Dieu lui dit, les prophètes, arrête Shmuel, ne regarde pas avec les yeux. L'homme regarde avec les yeux, Dieu voit le cœur. C'est pas lui qui l'a choisi. Chazal ont dit la raison, il était coléreux. Après, il fait passer le deuxième, Aminadav, deuxième fils de Ishaï. De nouveau, Shmuel se dit, ah, là, celui-là, c'est lui, tzaddik, on voit. Il lui dit, pas celui-là. Troisième, pas celui-là. Quatrième, pas celui-là. Cinq, six, sept, sept fils. Les sept fils passent. Dieu dit, c'est pas eux. Shmuel dit à Ishaï, et c'est tout? Ishaï dit, c'est tout. Shmuel dit, écoute, Dieu m'a envoyé, sacré, lui dit, Dieu m'a envoyé maintenant sacré oindre le nouveau roi d'Israël. Il m'a dit, c'est un de tes fils. Dieu ne se trompe pas. T'as pas encore un fils? Ishaï dit, oui, j'en ai un, je sais pas tout à fait, oui, il y en a un fils, là, il est dans les champs, il paie avec les troupeaux, un berger, amène-le. On fait appeler David. David rentre. Le texte dit que Shmuel le voit, il était rouquin, avec des beaux yeux, c'était marqué. Et Dieu dit à Shmuel, lève-toi. Et oint-le, c'est lui que Dieu a choisi pour être le roi d'Israël. Et David devient comme ça le roi d'Israël. Donc de façon très cachée, il ne fallait pas que Shaoul, le roi, le sache. C'est quoi cette histoire-là que Ishaï, dément avoir des enfants, et après il reconnaît qu'il y a encore un enfant qui est dans les champs, là-bas, en train de paître avec les troupeaux. Il faut remonter un peu en arrière. Trois générations auparavant, Ruth à Moavia. Ruth, c'est une non-juive qui s'est mariée avec un des enfants de Elimelech. Elimelech, c'était le grand de la génération ici en terre d'Israël. Il avait deux fils, Mahlon et Chilion. Il avait une femme qui s'appelait Naomi. Elimelech, Naomi, Mahlon et Chilion. Il y a une grande famine en terre d'Israël. Terrible. Qui, d'après la loi, autorise de quitter la terre d'Israël. On n'a pas le droit de quitter la terre d'Israël, mais d'après la loi, on peut quitter la terre d'Israël s'il y a la famine. Elimelech décide, on quitte la terre d'Israël. Chazal dit pourquoi? Parce qu'il a été très riche aussi, Elimelech. Il avait peur que s'il y a la famine, tout le monde demandait de l'argent, il va devenir tout pauvre. Donc il dit, je pars, ils s'arrangeront sans moi, et il part. Il part, Dieu le tue, il meurt. Ses deux fils meurent aussi. Pourquoi, hein, disent Chazal, eux, c'était pas un problème qu'ils étaient avares de donner leur argent. Ils disent, vu qu'ils étaient tellement grands en Torah, c'était des grands tzadikim, pour eux, à leur niveau, qu'ils quittent la terre d'Israël, même que c'est autorisé en cas de famine, il ne fallait pas. Pour ça, ils sont morts. Se retrouvent trois femmes. Naomi, la mère, et les deux femmes de Mahlon et Chilion. Ruth et Orpah, elles s'appelaient. Naomi leur dit, écoutez, moi je suis maintenant veuve, vous êtes encore jeune, remariez-vous, je rentre chez moi, il n'y a plus la famine, je rentre en terre d'Israël. Les deux filles disent, on ne te quittera pas. En passant, Shavuot, on lit Megillat Ruth. Je vous raconte maintenant, c'est marqué dans Megillat Ruth. Chassé Shalom, t'es notre mère, belle-mère, mais c'est comme notre mère, on reste avec toi, quoi qu'il en soit, on reste avec toi. Bon, il marche un peu. Naomi leur dit, écoutez, vous êtes des filles bien encore, pour encore vous remarier, refaire votre vie, que vous avez une vieille femme comme moi qui n'a plus rien. Rentrez chez vous. On reste avec toi. Et sans cesse, Naomi leur fait un lavage de cerveau. Rentrez chez vous. À la fin, Orpah dit, ok, moi je rentre. Orpah, dit Chazal, est revenue. Elle a fait l'arbre d'Azara, elle a fait les pires débauches qu'il puisse y avoir. Elle était près de la Kedusha. Et elle a lâché là, donc elle s'est attrapée par la Touma, elle est descendue à des niveaux très graves. Ruth elle peine. Naomi voit que, en marchant malement, elle, c'est dur pour elle. Elle s'est dit, c'est pas normal. On sait que lorsqu'on avance dans la Kedusha, c'est dur, rien va facilement. Naomi a vu que c'était dur pour elle, j'ai mis à mettre cette marque dans le texte, alors elle s'est tue. Elle a laissé Ruth venir avec elle. Et Ruth suit Naomi. Ils arrivent à Bethléem. Tout le monde voit la femme de Elimelech, le grand riche, le grand sage d'Israël. Naomi est revenue. Naomi signifie en hébreu, Naomi, ça vient Naïm, ça vient de la racine Naïm, ça vient agréable. Elle leur dit, n'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, amère, parce que j'ai plus rien. Elle avec ça, belle fille, Ruth. Ruth sait que si elle continue comme elle le fait de venir avec Naomi, elle se convertit au judaïsme, c'est ce qu'elle a fait. Ruth, c'est intéressant. Une personne qui est non-juive doit faire combien de mitzvot ? 7. Donc, quand elle se convertit, combien de mitzvot supplémentaires elle reçoit sur elle ? 613 moins 7, ça fait ?
606.
Bravo, 606. Valeur numérique du mot Ruth. Ruth appelée Ruth parce qu'elle s'est convertie, elle a pris sur elle 606 mitzvot. Alors, il y a une loi dans la Torah qui dit qu'un Moavi qui se convertit, pour 10 générations et pour l'éternité, ne peut pas se marier avec un juif ou une juive. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est sorti d'Égypte, c'est marqué dans la Torah, Asher lokid moetrem balechem vamaim, bader vetzrem meretz mitzrayim. Parce qu'ils ne vous ont pas reçu. Nous, on était peuple d'Israël, on va sur la route, on est assoiffé, on est affamé. Donnez-nous un peu l'hospitalité, vous donnera, on vous payera, donnez un peu à boire, un peu à manger, ils ont fait rien, on ne donne rien du tout. À cause de cela, alors, lorsque dans le futur, un Moav vient, on va dire comme ça, d'accord, un Moavi voudra se convertir, il peut se convertir. Mais se marier avec un ou une juive, la Vobekahal, ce qui s'appelle, impossible. Ruth, elle sait très bien cela. Néanmoins, elle continue, elle dit, je serai avec toi, ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu, ta mort sera ta mort, je mourrai quand tu mourras. Elle reste avec Naomi comme ça. Elle revient à Bethléem, c'est qu'elle n'a aucune chance de se marier, rien. Pourquoi elle fait ça? Par amour de la Torah, par amour de Dieu. Une vraie convertie comme il faut bien. Naomi l'envoie glaner du blé. À l'époque, c'est une loi de la Torah, lorsque on récolte le blé, il y a des restes comme ça, les restes doivent rester pour les pauvres. Elle va glaner. Au lieu de glaner avec les pauvres qui sont comme ça un peu légers d'esprit, c'est très belle route, elle va très 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 pudiquement dans d'autres endroits où il n'y a personne comme ça. Elle arrive dans le champ de Boaz. Boaz qui est famille avec la famille de Naomi de Elimelech. Et Boaz se rencontre une femme pudique, c'est qui? Il prend des renseignements, il lui dit, c'est Ruth, celle qui est venue avec Naomi. Celle qui est en famille avec toi. Il va vers Ruth, il lui dit, écoute, tu peux venir dans tous mes champs, je dis maintenant aux paysans de pas faire des clins d'œil, de pas faire des histoires, tu peux aller et ils te donneront beaucoup, ils te laisseront beaucoup de blé. Il dit aux paysans de lui laisser beaucoup de blé comme ça. Elle revient à la maison avec vraiment des kilos comme ça, elle raconte à Naomi, j'étais dans le champ de Boaz, et dorénavant elle est toujours dans le champ de Boaz. Et Boaz la voyait comme ça, elle lui donnait un peu à manger, etc. Et Boaz lui dit, tu sais, c'est à la halakha que c'est marqué qu'un Moavi ne peut pas se convertir, peut pas se marier avec un juif ou une juive, c'est vrai. Mais c'est marqué Moavi dans la Torah. Moavi, mais pas Moavite. Un Moavi ne peut pas se marier avec un juif ou une juive. Mais une Moavite peut se marier avec un juif. Pourquoi? Parce qu'elle a la raison pour laquelle un Moavi ne peut pas se marier avec un juif, avec une juive. Parce qu'ils ne sont pas allés à vau-devant pour amener du pain et de l'eau. Qui va au-devant? Les femmes? Les femmes, comme c'est marqué dans la Torah, quote, kol kvuda bat peler pnima, tout l'honneur d'une femme, c'est l'intériorité, le reste c'est à l'intérieur. Pas aller comme ça, elle voit des étrangers, venez manger, tchadal, venez danser, quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Ça va plus du tout. Les hommes vont. Les hommes qui n'ont pas joué leur rôle, eux c'est interdit. Mais les femmes qui sont restées tranquillement à la maison, même les Moavites, elles peuvent se marier avec un juif ou une juive. Elles rentrent à la maison. En passant, on raconte l'histoire à Naomi. Non, mais tu sais que j'ai un bon chitour pour toi. Boaz, d'après la loi, toi tu es morte sans. Pardon, ton mari est mort sans avoir d'enfant. Donc lui revient à la ministère du Lévira. Marie-toi avec lui et comme ça il y aura des enfants à notre famille. Prépare-toi, parfume-toi, mets des beaux habits et va le rejoindre. Je sais que cette nuit, Boaz avait à l'époque 400 ans. Il a vécu 400 ans. Et c'était l'un des grands de la génération. Lorsqu'il a fait la récolte, il y avait dans la grange, il y avait tout le blé. Il sait que la nuit, c'est la fin des récoltes, les paysans, les paysannes sont là. Qu'est-ce qu'ils font la nuit? Ils se mettent autour du feu, ils jouent un peu de guitare et il y a un danger que des paysans, des paysannes, ça finisse mal dans le noir comme ça. Alors il allait spécialement quitter sa belle villa et allait dormir dans la grange pour qu'il n'y ait pas d'histoire. Le rave est là, pas d'histoire. D'accord, faites attention qu'il n'y ait aucun problème de tsniout, de pudeur dans sa grange. Il dort près du tas de blé et Ruth rentre sous la couverture près de lui. Du coup, il se réveille. Il dit, qui tu es? On est au milieu de la nuit, minuit. Ruth, ta servante. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu m'aides avec moi. Je suis le Moussa de Lévira, fais-le avec moi. Chazal ont dit que l'épreuve qu'il a eue, Boaz, à ce moment-là, c'était la plus grande épreuve qu'il puisse y avoir. Parce que lui, cette femme était permise. Elle lui est permise. Chazal disent, Shekhar Rehen, Veve la Yofi, Ishar Yiratashem et Titalal. Le mensonge, le Shekhar Rehen, la grâce, le charme, c'est du mensonge. La beauté, c'est la futilité. Yiratashem, une femme qui a la Yiratashemain, qui a la crainte de Dieu, Titalal, elle est digne de louange. Alors Chazal font une dracha et disent, Shekhar Rehen, c'est Yosef. Yosef, qui avait une épreuve avec, après, avec la femme de Potiphar. Hevel Yofi, futilité de la beauté, c'est Boaz. Boaz, qui avait une épreuve avec Ruth. Isha Ratachamit Titalal, une femme digne de louange, c'est Paltiel. Paltiel, c'est encore une autre histoire, c'était vraiment sa femme. C'était la fille de Shaoul, qui était mariée par Shaoul à Paltiel, mais il y avait un doute, peut-être cette femme était déjà mariée à David. Et pendant quelques dizaines d'années, ils n'ont pas de relation entre eux, dans la même maison, dans la même chambre. Alors qu'officiellement, ils sont mariés. Pardon ? Il y a une baie entre les deux. Il a dit, celui qui passe d'un bordulé à l'autre, il sera transpercé par cette épée. Quoi qu'il en soit, Boaz, il est un des grands juifs qui a eu une épreuve à ce niveau-là. Normalement, qu'il aurait dû faire ? Il aurait dû l'insulter. Quoi, fils, pars d'ici, espèce de dépravé, dans mon lit, à moi, 400 ans, à mon âge, tu vas me faire un truc pareil dans mon lit, une femme. Oust ! Il lui dit, écoute, attends demain matin, il y en a un dans le Lévira qui passe avant moi. À lui revient la mitzvah, j'irai le voir. S'il accepte, c'est à lui. S'il refuse, c'est à moi. Alors, demain matin, il va voir le type, il lui dit, il s'appelait Tov, écoute, il y a le champ maintenant de Elimelech qui revient maintenant à l'héritier. C'est toi l'héritier. Mais je lui prends le champ. Alors il faut prendre aussi la femme avec. Il faut prendre Ruth. Lui savait Ruth, Moavi, pas Moavi, toutes les histoires, machin, c'est pas clair la halakha ici. Chazal ont dit c'était halakha shorofefet beyadam. C'était une halakha qui était pas claire. Parce que ce que Boaz a dit, Moavi, mais pas Moavite, c'était lui qui a dit que c'est, okay, c'est Gdolador. D'autres ont dit oui, non, c'était pas clair. Qui a raison? Il dit, je prends pas de risque, moi, laisse, tu veux toi? Vas-y, prends-toi et le champ et la femme. Boaz vient, se marie avec Ruth. Elle tombe enceinte de Boaz, et la même nuit, Boaz meurt. Âge de 400 ans. Que disait Rachamim à l'époque? Les soi-disant sages, ils disent, t'as vu? Boaz, qui a vécu un tzadik pendant 400 ans, il s'est marié avec une Moabite et il est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, on ne peut pas faire avec une Moabite. Tu vois bien, Dieu, il a fait une mauvaise action. Paf, sur place, il a écopé. Elle aura un fils, Ruth. Il s'appellera Oved. Oved se marie, bien que cette halakha était refaite. Mais bon, les gens n'étaient pas clairs, il a réussi à se marier. Oved met au monde Ishaï. Ishaï qui sera le père de David. Ishaï, qui est un des plus grands tzadikim que l'histoire ait connu. Chazal dit, il y a quatre personnes dans l'histoire qui sont morts, Be'etio shel Nachash, c'est-à-dire qu'ils sont morts du venin du serpent originel. Le serpent, il a mis la mort dans le monde. Avant lui, l'homme était éternel. Si ce n'était le venin du serpent, c'est-à-dire qu'il y avait la mort dans le monde, cet homme-là, Ishaï, ne méritait pas mort. Il n'avait aucun péché, aucun péché. Il y a quatre personnes comme ça dans l'histoire. Ishaï, Binyamin, Kilav, Lévi. Il y en a qui disent aussi Amram. 4. Ishaï, se marie avec une tzadeket qui s'appelle Nitzevet Bat Adiel, la mère de David Amelech. Nitzevet Bat Adiel. Il a avec elle 7 enfants. Après 7 enfants, il se dit, Ishai, tu sais, Nitzevet, il y a des gens, les rabbins me discutent beaucoup. Moavit, Moavit, pas Moavit, oui, Moavit, non. Moi, je suis un descendant de Ruth. Je suis un Moavit, mais descendant de Moavit. Donc, c'est pas clair. Est-ce que j'ai le droit de me marier avec une juive comme toi, Nitzevet? On a fait 7 enfants. Mes enfants aussi, maintenant, ils vont d'après moi. Ils sont aussi donc des Moavis. C'est un problème, j'en ai marre. Je ne veux plus faire des enfants comme ça. Moi, j'arrête. Il n'a pas divorcé. Mais, relation, plus de relation. Après 3 ans, il se dit, j'ai une idée. Je vais maintenant faire en sorte que ma descendance devienne kasher lavo bekahal, permis de se marier. Moi, il y a un doute, est-ce que j'ai le droit maintenant de me marier avec une juive ou pas? Moavit, pas Moavit, c'est une discussion entre rabbins. Il y a un truc. Si quelqu'un a shalom, il est mamzer. Ou il est Moavit, pas Moavit, il est Moavit. C'est clair qu'il ne peut pas marier avec une juive. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a une combine à faire. À l'époque, il y avait la servitude. Il y avait des gens qui avaient des serviteurs et des servantes. S'il prend une servante qui était Knaanite, une servante de l'époque, non-juive, elle non-juive, il achète en tant que servante. Si il se marie avec elle, en tant que servante, les enfants de cette servante ont un statut de serviteur cananéen. Ils ne sont pas juifs. Ils ne sont pas fils du père. Ils sont fils de la mère. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'elle a fait des enfants, il les libère. C'est-à-dire qu'il les libère, il les rend juifs. Une servante ou des serviteurs knaanim qu'on libère deviennent juifs. Mais juifs comme un converti. Ils ne sont pas fils de Ishaï. Génétiquement, oui, au niveau de la filiation, vu qu'ils étaient des fils de servantes, ils sont aussi serviteurs, knaanim. Quand on les libère, c'est comme si on les convertit, ils deviennent des juifs à part entière. On regarde qui est leur mère était une knaanite, était convertie, ça va. Le père Moavi, cette filiation au père, disparaît. Donc moi j'aurai des enfants qui seront, c'est vrai, pas affiliés à moi, mais ce seront des enfants qui seront cachers. Il a une servante, Knaanit. La servante, écoute, prépare-toi, cette nuit, je me marie avec toi. La servante, il ne comprend rien du tout. Quoi? Ishaï, ce grand sadique, se marie avec moi, qu'est-ce qui se passe là? Elle va voir sa maîtresse. Nitzevet Bat Adiel, elle lui dit, écoute, je ne sais pas, votre mari m'a dit, cette nuit, on se marie, tout ça. Nitzevet dit, écoute, prépare-toi, et en douce, la nuit, c'est moi qui viendrai à ta place. Ainsi dit, ainsi fait. Ishaï n'est pas au courant. La femme était extrêmement pudique à l'époque. Ouais, on ne voit pas qui c'est. Quelques mois plus tard, Nitzevet est enceinte. Ishaï dit, je ne comprends rien. Ça fait 3 ans que je n'ai pas de relation avec elle. Elle est enceinte. Elle a fait znout. Elle a une relation avec quelqu'un d'autre. L'enfant, c'est un mamzer. David, il va naître. Comment il est, David? Tout rouquin. Ah ben voilà, regardez-moi ce rouquin d'où il vient. Moi, je suis brun, ma femme est brune. C'est quoi ce rouquin? Ah, c'est certainement un Écossais qui est passé ici. Et il a mis ma femme enceinte.
Il ne peut pas la divorcer dans ce cas-là?
Hein?
Il ne peut pas la divorcer dans ce cas-là?
S'il y a des témoins, oui. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Pas de témoin. S'il y a un témoin, oui, il n'y a pas de témoin. Ah, elle est enceinte. Ok, question. Peut-être c'est la grâce qui l'a mis enceinte, je ne sais pas. D'accord? On ne sait pas ce qui se passe. Hein?
Sota,
c'est pas. Sota, c'est s'il a interdit à une femme de s'enfermer avec un homme, elle s'enferme avec cet homme-là. Alors là, on fait Sota. Il n'y a pas de témoin, donc on ne peut rien faire. Évidemment, dès que David grandit, qu'est-ce qu'il veut, Ishaï? Première chose, se débarrasser de ce mamzer. Un bâtard à la maison, en bon français, pour le grand de la génération, ça la fout mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne les troupeaux, va dans le désert là-bas, va dans le désert, il y a de fortes chances qu'il se fasse dévorer. Il y a des loups, il y a des tigres ici dans le désert, il y a des ours. Le but de Ishaï, d'apprendre la bonne nouvelle que, hélas, son fils David s'est fait dévorer par un ours. Le roi David Misken, il grandit, il a un neshama extraordinaire, il est fils du Gdolador. Nitzev, elle dit rien à personne. Pourquoi? Elle ne veut pas mettre mal à l'aise la Chifra, la servante. Elle dit rien à personne. Elle garde pour elle. Mais elle voit comment son fils est envoyé là-bas dans le désert, elle prie que Dieu la protège, que Dieu le protège. Et Dieu le protège et le bénit. Et le Melech, comment situe la Torah? Il voit les cieux, il voit les astres la nuit, il se met à faire, commence à écrire ses premiers Tehillim. Et tous les Tehillim du roi David, c'est toute son histoire à lui. Il commence Tehillim, je vous le citer un peu, chapitre 8. Lorsque je contemple tes cieux, œuvre de ta main, la lune, les étoiles que tu as formées, qu'est donc l'homme que tu penses à lui, le fils d'Adam que tu le protèges? Je connais des gens qui ont fait tchouva comme ça. C'est à l'armée ici, mon cousin, qui est à l'armée en Israël. À l'armée, on dort la belle étoile dans le désert, c'est très beau parce qu'il n'y a pas de pollution. Spectacle d'étoiles fantastique, tu vois les étoiles, tu fais tchouva. Il a fait tchouva comme ça. Le roi David, il voit ça, il écrit Tehillim. Il y a un autre Tehillim, on connaît tous, c'est le premier Tehillim qu'on lit à Shabbat, dans les Tehillim qu'on rajoute à Shabbat. Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en fait le récit au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Point de discours, point de parole, leur voix ne se fait pas entendre. Sur toute la terre pourtant s'étend leur harmonie et leurs accents vont jusqu'aux confins du monde, là où Dieu a signé une demeure au soleil. Celui-ci, pareil au jeune époux, sortant de sa chambre nuptiale, se fait une joie tel un héros de parcourir sa carrière, etc. etc. Il loue Dieu, les étoiles, le soleil, la lune, les télims du roi David. Et il apprend la Torah. Comment il apprend la Torah? Il voit la nuit que le cheval ne dort jamais plus d'une demi-heure. Toute demi-heure, il se réveille. Il dit, bon, si je vais faire comme ça. Et Hazal nous disent que le roi David, la première partie de la nuit jusqu'à minuit, il dormait, mais toutes les moins de demi-heures se réveillaient, pour ne pas goûter au goût de la mort. Dès minuit, il se renforçait comme un lion pour la Torah jusqu'au petit matin. Pourquoi dès minuit? Hakarat Hatov. Reconnaissance du bien. Pourquoi? Parce qu'il y a trois générations. Son arrière-grand-mère, Ruth, est venue à minuit dans le lit de Boaz. Et Boaz aurait pu l'envoyer balader. Et Dieu a fait un miracle que non. Il n'y a pas eu de péché. Il n'y a pas eu de dispute. Il n'y a eu que grâce à ça, grâce à ce que Boaz a pu répondre comme il fallait bien dans cette épreuve très dure, David a pu naître. Hakarat Hatov. Donc dès minuit, tu lis la Torah. Dans le village de Bethlehem, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on voit Isha, le grand de la génération, on voit son fils, il l'envoie toujours balayer dans le... Qu'est-ce qu'il sait? Il y a un problème, là. Certainement, il a fait un problème. Ce David, sûrement, il a piqué un peu d'argent dans le porte-monnaie de ses parents. On dit, mais t'as rien compris. Il a dû sûrement faire des trucs avec ses sœurs. Alors, t'as rien compris. C'est sûrement un assassin. Les gens commencent à parler. La Shonara, avec utilité, comme ils disent, le Torah, c'est permis, n'est-ce pas? Parce que sur un type comme David, il faut bien que Ishaï lui-même l'envoyait, donc certainement c'est permis. Et si Ishaï fait ça, nous aussi, on peut parler contre lui. Et tout le village commence à parler. Et les parents qui parlent, les enfants qui parlent aussi. Et David rentre, et les enfants commencent à lui jeter des pierres. Elle traite de tous les noms. Il y a un vol à Bethléem, qui on va accuser? Eh bien, c'est certainement David. Il y a quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas qui c'est. De nouveau, c'est David. Et David se tait. Il écrit Tehillim. Je vous le lire aussi. Samer Tet, 69. Viens mon secours, ô Dieu, car les flots m'ont atteint menaçant mes jours. Je suis plongé dans la vase d'un gouffre. Pas un pouce de terrain pour y poser le pied. Je suis descendu dans des eaux profondes et les vagues me submergent. Je suis exténué à force de crier, ma gorge est enflammée, mes yeux sont éteints à force d'attendre l'aide de mon Dieu. Plus nombreux que les cheveux de ma tête sont ceux qui me haïssent pour rien. Puissants sont mes oppresseurs qui me poursuivent de leur haine gratuite. Si je les ai volés, déjà, je leur aurais fait réparation. Parce qu'on dit, David, t'as volé, paye. Et David, il paye, il n'a pas le choix. Il n'a rien volé. Je dois faire réparation. Ô Dieu, tu serais instruit de ma folie, mes crimes ne te resteraient point cachés. Qui n'est pas à rougir à cause de moi ceux qui espèrent en toi, Seigneur l'Éternel Sébakot. Car c'est pour toi que je supporte les insultes, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, parce que le zèle pour ta maison me dévore et que les insultes de tes blasphémateurs retombent sur moi. Je pleure tout en m'imposant le jeûne, et ceci même est tourné en opprobre pour moi. J'ai endossé comme vêtement un cilice, je suis devenu pour eux un sujet de sarcasme. Ceux qui sont assis, etc., on peut tout lire. En tout cas, je ne vais pas faire trop long, mais vous lisez tout le 69, c'est la vie terrible du roi David. Et comme ça pendant 28 ans. Après 28 ans, David est dans les champs, on le fait appeler, il vient. Shmuel le prophète est là et il t'appelle. À moi il m'appelle ? Oui. David vient, il va chez sa mère, il change ses habits. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'es rentré ? Je sais pas, maman. Il paraît que le prophète Shmuel m'a appelé. Quoi ? Le prophète Shmuel t'a appelé ? Elle le suit. Il rentre, tout le village est là, tous les notables. David rentre. Shmuel voit qu'il est rouquin. Il dit, rouquin, chauffeur d'Amim, assassin. Rouge. Elle savait être rouquin aussi, assassin. Il lui dit, Yefe Naim, il a des beaux yeux. Khazali, c'est quoi qu'il a des beaux yeux ? Les yeux de la Hedda, de la communauté, c'est le Sanhedrin. Il fera les guerres. Oui, c'est un type qui va faire couler de sang, mais d'après le Sanhedrin, il fera tout d'après la volonté de Dieu, d'après le Sanhedrin. Il a des beaux yeux. Il va d'après les yeux de la communauté, d'après le Sanhedrin. Et Dieu dit à Shmuel, lève-toi, tu es assis maintenant devant Meshiach Hashem, le roi d'Israël. T'es assis, lève-toi. C'est lui que Dieu a choisi pour être le roi d'Israël. Shmuel se lève. Et Chazal disent que l'huile dans la fiole, elle a sauté sur la... Elle est venue comme ça, elle a monté. Comme Rivka, quand Rivka s'est approchée de l'eau, alors la source, l'eau est montée vers elle. Yaakov aussi, quand il est venu vers le Nil est monté. Là aussi, l'huile est montée vers David. Tout le monde se lève, tous les notables qui critiquaient encore hier, il y a quelques secondes, David se lève et disent, Yahya Melech, vive le roi. Les frères de David vont aller voir Nitzevet Batadiel, la mère, les yeux un peu bas. Ils regardent ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont pensé, tout ce qu'ils ont dit. Ils ont soupçonné que leur mère a fait une prostitution, a fait znout, a fait l'adultère. Et bien sûr, Nitzevet leur excuse et leur dit, vous voyez, Even Masu Abode Matel Rojpina. On dit ça dans la Tehilim aussi, c'est dans le Hallel. La pierre que les constructeurs ont dénigrée est devenue la pierre d'achoppement, la pierre la plus principale. David, mon fils, vous avez comme ça mis de côté, il est devenu roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il répond, le verset qui vient après ? Met Hashem Haitazot. C'est vrai, c'est l'une de Dieu. Hiniflat Belenu, c'est une chose que nos yeux ne peuvent pas comprendre, on ne comprend pas les secrets de Dieu. Zayom Asa Hashem Nagila Mesemachabo. C'est le jour que Dieu a fait, soyons en réjouissance que le roi David est devenu le roi David. De ce moment-là, personne n'est au courant que Bethléem, c'est un secret, parce que Shaoul sait qu'un roi doit le remplacer, il ne voudra jamais laisser, il sera jaloux. La suite de l'histoire, au prochain numéro. Baruch Adonai, l'Omane V'Amen.